C'est vraiment une bénédiction qu'on a quand même, tous ces enfants. Pour la prédication de ce matin, j'ai choisi un texte dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Ben, c'est déjà affiché. Donc Éphésiens 4, 25, jusqu'au verset 2 du chapitre 5. Donc je vous invite à suivre avec moi cette lecture. C'est pourquoi, débarrassé du mensonge, que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Ne sommes-nous pas membres les uns des autres? Mettez-vous en colère, mais ne commettez pas de péché. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez aucune prise au diable. Que le voleur cesse de dérober, qu'il se donne plutôt de la peine et travaille honnêtement de ses mains pour qu'il ait de quoi secourir ceux qui sont dans le besoin. Ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement des paroles empreintes de bonté, qu'elles répondent à un besoin et aident les autres à grandir dans la foi. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet Esprit, Dieu vous a marqué de son sceau, comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insulte, faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père, que toute votre vie soit dirigée par l'amour, comme cela a été le cas pour le Christ. Il nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. Et j'arrête là pour la lecture. Alors, si on a un petit côté légaliste, on va avoir tendance à se focaliser en premier sur les ordres et les interdictions qui sont nombreux dans ce texte. Et en fait, pas que dans ce texte, hein, faut être réaliste, la Bible est remplie d'ordres et d'interdictions. On en trouve très souvent. De choses qu'on a le droit de faire et de choses qu'on n'a pas le droit de faire. Certains textes ont un petit côté code pénal, il faut l'avouer. D'ailleurs, ça rebute pas mal de personnes, hein, quand elles lisent la Bible. Les gens ont parfois l'impression d'avoir entre les mains une liste de bonnes conduites. Et ça fait pas forcément très envie. Enfin, en tout cas, moi, ça me fait pas envie. Mais les interdictions ou les exhortations, c'est pas ça le centre de notre texte. Et c'est d'ailleurs pas ça le centre du message biblique en général. Non, le centre de ce texte est résumé en deux petits passages que nous avons lus, que voici. Tout d'abord, au verset 32, « Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Et ensuite, au verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet Esprit, Dieu vous a marqué de son sceau, comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. » Voilà ce sur quoi il nous faut insister avant de parler d'autre chose. Voilà le centre, voilà sur quoi repose tout le reste. Voilà le contenu de la bonne nouvelle de l'Évangile, résumé en peu de mots. Dieu nous a pardonnés en Christ et il nous a donné son Esprit en nous pour nous marquer comme ses enfants. Donc, si c'est ça le centre, et avant d'aller plus loin, eh bien on va regarder ça d'un peu plus près. Pour certains, ce sera des redites, pour d'autres, peut-être une découverte, mais c'est jamais inutile. Tout d'abord, que veut dire Paul lorsqu'il nous dit que Dieu nous a pardonnés en Christ ? Dieu a créé l'homme pour en faire son représentant sur terre. On l'a vu au cadet, hein, les ados, la dernière fois. Dieu a créé l'homme pour en faire son représentant sur terre, son image, son délégué. L'homme est la créature qui devra prendre soin de la création de Dieu. Ouais, je sais, on s'est un peu raté. Mais l'homme est aussi la seule créature qui reçoit le cadeau incroyable de pouvoir entretenir une relation personnelle avec Dieu. On est la seule créature de toute la création à avoir reçu ce cadeau. Une relation, vivre avec Dieu, une relation d'amour, de confiance, de respect, d'adoration, d'obéissance. Mais, et les ados, qu'est-ce qu'on a vu ce matin au caté ? Non, je vais pas vous piéger comme ça. Mais l'homme n'a pas voulu de cette relation. Il l'a rejetée. Il a rejeté la volonté de Dieu pour pouvoir décider lui-même de ce qui est bien ou mal. Mais comme Dieu est parfaitement bon, Dieu est le bien. Si on cherche une définition de ce qu'est le bien, dans la Bible, le bien, c'est Dieu. Donc, le bien n'est autre aussi que sa volonté, ce qu'il désire pour nous. Et comme l'homme a rejeté la volonté de Dieu, fatalement, il a rejeté le bien. Et il s'est mis à faire l'inverse, le mal. Oh, pas complètement. Il faut pas caricaturer le tableau non plus. La plupart des êtres humains sont, comme on dit souvent, des gens bien, qui font plus de bien que de mal autour d'eux. Je sais, quand on allume la télé, on n'a pas cette impression, mais la plupart des gens dans notre monde sont des gens bien, qui recherchent le bien, heureusement pour nous et pour notre monde. Mais ils pratiquent quand même le mal. Et pour un Dieu parfait et juste, qui a justement le mal en horreur, le bien que nous faisons ne peut pas racheter le mal que nous faisons aussi. Et fatalement, le mal que nous faisons nous condamne face à ce Dieu parfaitement juste et parfaitement bon. Il nous condamne avant tout à la mort, à un moment donné nous y arrivons tous, mais aussi à la séparation d'avec ce Dieu parfait et juste. Mais si Dieu est justice, heureusement pour nous, il est aussi amour. Et par amour pour nous, il a fait la seule chose qui pouvait nous sauver de cette condamnation. Dieu est venu sur terre. Il est devenu un homme parfaitement juste, Jésus-Christ. Et il a accepté à notre place la sanction que nous devions recevoir, c'est-à-dire la mort. Un juste a reçu le châtiment à la place des coupables. Mais comme il était juste, innocent, la mort n'a pas pu le garder. Ça aurait été justement injuste. Il est donc ressuscité. Et dès lors, tous ceux qui se reconnaissent coupables et qui reconnaissent le Christ comme leur sauveur sont pardonnés. Tout simplement, pardonnés. Le châtiment que nous méritions, le Christ l'a reçu à notre place. Alors en le recevant comme notre sauveur, nous ne sommes plus condamnés, nous sommes justifiés, nous dit la Bible. Nous sommes pardonnés. Voilà ce que l'apôtre Paul veut dire lorsqu'il écrit que Dieu nous a pardonnés en Christ. Mais que veut dire Paul lorsqu'il écrit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet esprit, Dieu vous a marqué de son sceau. » Eh bien, par cette phrase, Paul nous raconte tout simplement la suite de l'histoire. L'histoire ne s'arrête pas au pardon, la vie continue. Et que se passe-t-il une fois que nous sommes pardonnés, une fois que nous avons accepté le Christ comme notre Sauveur et Seigneur ? Eh bien, la relation entre Dieu et l'homme, qui avait été brisée par le rejet de l'homme, cette relation est rétablie, restaurée. Et Dieu vient alors personnellement en chacun d'entre nous, par son esprit, pour nous faire vivre cette relation d'amour qu'il a toujours souhaité avoir avec nous. Dieu est présent en chaque croyant, par son esprit. Mais le Saint-Esprit ne sert pas qu'à nous faire goûter l'amour de Dieu, quoique c'est déjà pas mal. Il sait aussi que le pardon que nous avons reçu n'enlève pas le problème du mal qui est là, qui est en nous, qui est partout. On ne devient pas parfait du jour au lendemain quand on a accepté le Christ comme notre Sauveur. Alors l'Esprit de Dieu vient aussi pour nous guider pas à pas, petit à petit, tout au long de notre vie, dans ce qui est le bien, la volonté de Dieu. Il nous guide pour redécouvrir avec Dieu dans cette relation ce qui est le bien, la volonté de Dieu. C'est pas grave, c'est pas grave. Il y a de la tristesse chez les enfants des fois aussi, mais beaucoup de joie. L'homme s'était rebellé contre Dieu car il voulait décider lui-même de ce qui est bien ou mal. Il voulait faire ce qu'il voulait, pas ce que Dieu souhaitait. Et tant pis s'il rejetait une partie du bien et qu'il acceptait une partie du mal. Mais une fois que nous sommes pardonnés, réconciliés avec notre Créateur, il vient nous aider à discerner à nouveau le bien du mal, sa volonté de ce qui ne l'est pas. Lorsque nous faisons le bien, l'Esprit de Dieu en nous se réjouit avec nous. Mais lorsque nous faisons le mal, il est attristé. Voilà pourquoi Paul exhorte les croyants en leur disant « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu ». Il leur demande en fait de rechercher ce qui est bon, ce qui est bien, la volonté de Dieu. Voilà le centre de ce texte. Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ et par son Esprit en nous, il vient nous guider dans sa volonté pour nous. Du coup, ça fait quand même un petit peu moins légaliste. On se rend compte que ce texte est avant tout rempli d'amour et d'espérance, plein de belles choses. Ce qui nous semblait si moralisateur, si on le lit comme ça, finalement ça l'est plus du tout. Lorsque Paul interdit ou exhorte, il le fait pas par plaisir ou il le fait pas pour imposer des principes qu'il aurait inventés comme ça, juste pour nous embêter. Non, il s'adresse à des personnes qui se sont converties, qui ont reçu le pardon en Christ, qui ont reçu l'Esprit de Dieu et qui cherchent à vivre selon sa volonté. Et Paul désire aider ces personnes dans leur recherche, dans leur cheminement avec Dieu. Il leur rappelle donc certaines choses que Dieu désire pour nous et certaines qu'il ne désire pas. Et que dit-il ? Débarrassez-vous du mensonge, mais que chacun dise la vérité. Si vous vous mettez en colère pour un motif juste, n'oubliez pas que cette colère doit s'apaiser. Ne volez pas, mais travaillez honnêtement, à la fois pour subvenir à vos besoins, mais aussi pour aider ceux qui sont dans le besoin et qui pourraient être tentés de voler pour répondre aux besoins qu'ils ont. Ne dites pas de paroles blessantes, mais des paroles remplies de bonté, qui aident les autres, qui leur font du bien. Chassez l'amertume, l'irritation, la colère, les insultes, mais au contraire, soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Et sachez pardonner, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ce à quoi Paul nous appelle, c'est à vivre dans la ressemblance à Christ, dans la volonté de Dieu, dans le bien, en pratiquant le bien, en reflétant l'amour que Dieu a pour les hommes. Paul nous dit au verset 1 du chapitre 5, « Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père. » Paul nous appelle à suivre un exemple de bonté et d'amour, pas à obéir une liste de conduites prédéfinies. C'est pas si simple que ça. Alors, je me répète, mais si les hommes se sont rebellés contre Dieu, c'est parce qu'ils voulaient décider eux-mêmes de ce qui est bien ou mal, de ce que devait être leur vie. Mais sans Dieu, sans ses repères et ses conseils, c'est impossible. Et notre monde s'y perd. Et ce philosophe grec, Démocrite, l'avait bien compris, déjà même 400 ans avant la venue du Christ. Notre monde recherche le bien, Beaucoup de gens recherchent le bien, mais ils ne le trouvent pas complètement. Notre monde sait que certaines choses sont mauvaises, mais il ne sait pas pourquoi. Notre monde sait que le bien existe, il l'entrevoit, il le pratique en partie, mais il n'arrive pas à le saisir complètement, à le connaître dans sa totalité. Les hommes savent aussi, pour beaucoup, que Dieu est là. Mais comme ils ont coupé cette relation qu'ils avaient avec Dieu, ils n'arrivent plus à le connaître vraiment. Et ils le cherchent par tous les moyens. Notre monde cherche le bien, la bonté, l'amour, la douceur, la bienveillance. La plupart des gens ne sont pas des bourreaux ou des meurtriers, ou avec l'actualité, des terroristes. Ce ne sont pas non plus des personnes qui pratiquent tout le temps le vol, le mensonge. Non, la plupart des gens sur notre terre sont des personnes de bonne volonté, qui recherchent le bien, qui veulent œuvrer pour le bien. Les hommes savent souvent que les dérives de la volonté humaine, auxquelles nous assistons un peu tous les jours, ne sont pas saines pour eux. Alors ils recherchent une alternative à ces dérives. Mais où vont-ils la trouver? Qui va pouvoir leur apporter ce qu'ils recherchent? Qui sera leur guide? Qui sera leur guide? Le guide des hommes sur leur chemin de vie, dans leur quête de Dieu et de la pratique du bien. Dans ce but, notre société a créé un guide. Un guide qui sait ce qui est bon pour nous, qui sait ce dont nous avons besoin, qui sait ce qu'il nous faut, ce qui comblera nos désirs, ce qui répondra à nos aspirations les plus profondes. Et ce guide, qu'est-ce que c'est? Vous avez une idée? Non, Nana, tu dis pas. Toi, tu sais. Ce guide qui de nos jours répond à tous nos désirs, va nous dire ce dont nous avons besoin, c'est la publicité. La bienveillante et omniprésente publicité qui va venir répondre même parfois aux questions existentielles que nous nous posons, qui va venir nous vendre le produit qui nous apportera ce que nous recherchons, qui comblera un certain vide, qui comblera nos aspirations les plus profondes. L'homme cherche à échapper aux dérives de la volonté humaine pour se rapprocher de ce qui est bien, douceur, amour et bienveillance. La publicité le sait très bien et nous en verrons un exemple dans quelques instants. Dans un monde perdu qui court sans cesse, sans jamais trouver forcément les réponses, les hommes recherchent la paix et la douceur. Dans un monde où tout va trop vite, tout est trop grand, les hommes recherchent la finesse, la bienveillance. Dans un monde où nous sommes submergés par l'information, par une multitude de réponses différentes aux questions que nous nous posons, l'homme recherche le détail de la vérité. Dans un monde où tout devient uniforme, aseptisé, les hommes recherchent à être surpris, émerveillés, et à être acceptés pour leur singularité, pour ce qu'ils sont. Et tout ça, les publicitaires l'ont très bien compris. Alors la publicité vient nous apporter une réponse même à ces aspirations-là. Et je vous invite à regarder un exemple de ce que la publicité nous propose en réponse à ces aspirations profondes. Voilà, tout est dit. Vous aspirez à trouver la douceur, la finesse, le détail et l'inattendu dans votre vie. Eh bien, voilà ce que nous propose notre monde. Achetez ce téléphone portable. Just Alpha. Il est classe, n'empêche, hein. Achetez-le et vos aspirations profondes seront comblées. Vous trouverez douceur, finesse, détail et inattendu. Ça vous va comme réponse? Est-ce que le consumérisme va apporter aux gens les réponses dans leur recherche du bien, du bon, du vrai? Ça nous fait rire, mais est-ce que ça vous choque pas un peu, cette réponse, ce mensonge qu'on nous diffuse, qui nous fait sourire, mais qui nous fait acheter au final? Est-ce que nous n'avons pas une autre réponse à apporter à notre monde, à nos contemporains, à nos amis, à nos familles? Est-ce que nous n'avons pas reçu de la part de Dieu la solution au problème de notre culpabilité, premièrement, mais aussi de notre incapacité à vivre pleinement dans le bien? C'est ce dont je parle depuis le début de cette prédication. Nous avons reçu la réponse de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Nous avons reçu la réponse de son pardon gratuit qu'il nous accorde sur la croix. Nous avons reçu la réponse du don de son esprit en nous pour nous guider et nous permettre de vivre une relation personnelle et intime avec lui. Nous avons aussi reçu sa parole pour apprendre jour après jour à mieux connaître notre Dieu. Nous l'avons reçu. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Mais maintenant que nous l'avons reçu, que faisons-nous de cette réponse? Lorsque nous étions perdus, Dieu est venu toucher notre cœur. Lorsque nous étions en recherche, le Seigneur a placé des personnes sur notre route pour nous aider, nous parler de la bonne nouvelle de Dieu, nous accompagner jusque là où nous en sommes. Et maintenant, à notre tour, que faisons-nous pour tous ceux qui vivent ce que nous avons tous vécu? Est-ce que dans nos actes, nous reflétons l'amour que Dieu a pour nous et pour les hommes? Est-ce que dans nos paroles, nous témoignons de cette bonne nouvelle du pardon que nous avons reçu gratuitement en Christ? C'est tout simplement cela que Paul nous demande dans notre texte. Ce qui nous semblait être une liste interminable, assez grosse, de choses à faire et de choses à ne pas faire, en fait, Paul nous demande par là seulement de vivre une vie qui témoigne dans nos actes de l'amour de Dieu, de son pardon et de sa volonté. Et que nos paroles servent à faire le bien, à apporter la bonne nouvelle du Christ qui peut conduire à la foi. Je vous relis ce que Paul nous dit. Que toute votre vie soit dirigée par l'amour, comme cela a été le cas pour le Christ. Paul nous appelle à la ressemblance à Christ, à refléter l'amour de Dieu dans nos actes. Il nous dit aussi, ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement des paroles empreintes de bonté, qu'elles répondent à un besoin et aident les autres à grandir dans la foi. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. Paul nous appelle à faire du bien par nos paroles et à témoigner de la bonne nouvelle qui conduit à la foi. Et Paul nous dit aussi une dernière chose. Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père. Dieu est notre Père, nous sommes ses enfants. Dieu nous a rachetés gratuitement, il nous a pardonnés, mais il nous a aussi adoptés comme ses enfants. Et il nous a unis en une grande famille, sa famille, l'Église. Et c'est au sein de cette famille que nous devons expérimenter de manière réciproque ce que nous vend faussement la publicité que nous avons vue tout à l'heure, c'est-à-dire la douceur, la finesse, le détail et l'inattendu. La douceur et la finesse de nos relations vécues dans l'amour, le détail de la vérité de la parole de Dieu. Enseigner, proclamer, témoigner. Et l'inattendu de nos différences, mais vécues dans la bienveillance et dans le pardon. La différence blesse toujours à un moment donné. C'est pour ça que la bienveillance ne suffit pas. Il faut le pardon entre nous. Ce n'est pas un téléphone qui peut nous apporter tout ça, qui peut apporter tout ça à nos contemporains. Ça nous a tous fait rire, on en a tous conscience, mais on tombe souvent dans le panneau quand même. C'est Dieu, c'est son esprit, c'est sa parole qui peut nous apporter tout ça. Mais c'est aussi sa famille, c'est-à-dire nous, l'Église. Et il nous faut, je pense, dénoncer ces mensonges que notre monde diffuse aussi largement que cette publicité, pour apporter en retour ce que nous avons reçu, l'amour de Dieu, son pardon et sa parole. Et pour terminer cette prédication, je me suis un petit peu amusé, voilà comment cette publicité aurait dû être, selon moi, si elle avait témoigné de la vérité de Dieu. Alors je précise juste que la plupart des images qui ont été rajoutées, qui modifient la vidéo initiale, proviennent de notre communauté. C'est pas un personnel artificiel ou pour faire joli, c'est un peu de ce que nous sommes. Vous allez peut-être reconnaître certaines personnes ou certaines choses. Et je terminerai par ça.